This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
La tuerie de Saint-Andéol, épisode 1. Mai 1995. Toute une famille disparaît dans l'incendie de son pavillon. Le père, la mère, le fils et la fille. Tous tués en une après-midi. Le drame se joue à Saint-Andéol du Château, dans un village tranquille du Rhône. Les victimes, une fratrie sans histoire, connue et aimée de tous. À Saint-Andéol, c'est donc le chagrin et la consternation. Qu'est-il arrivé aux membres de la famille Bébien? Et pourquoi? Je vais vous raconter l'histoire d'un quadruple meurtre, d'une enquête éclair et d'un mystère qui perdure encore, près de 30 ans après. Je suis Caroline Nogueras, vous écoutez Homicide. Saint-Andéol-le-Château. Vous ne connaissez pas, c'est normal. C'est un village situé dans le département du Rhône, coincé entre Givors et Mornant, à 50 km de Lyon. Saint-Andéol-le-Château, c'est si petit qu'en 2018, le village a fusionné avec deux autres communes. Aujourd'hui, le coin s'appelle Beauvallon. Mais en 1995, ça s'appelle encore Saint-Andéol-le-Château et le nom de ce village perdu va faire la une des journaux pendant des semaines. Le 30 mai 1995, fin d'après-midi, un pavillon de lotissement Trimolin est en proie aux flammes. Ce sont les voisins qui ont donné l'alerte. Simon Boiron, maire du village depuis 18 ans, est sur les lieux. Libération raconte ce qui se passe par la tête de l'élu dans son édition du 1er juin. Il pensait avoir affaire à un particulier en train de brûler de vieux pneus. Il se rend immédiatement dans le quartier, un secteur pavillonnaire où se succèdent de petites villas entourées de jardins. Le feu vient de gagner la toiture d'une maison, celle des Bébiens. Le toit s'effondre. Il se rassure un instant en voyant que les quatre volets des fenêtres de la façade sont fermés. Mais il s'inquiète en reconnaissant garé devant la maison la Golf du père, le scooter et la Renault des enfants du couple. Les pompiers de la caserne de Givors sont dépêchés sur les lieux. Il est un peu plus de 18h50. Les voisins de ce petit lotissement où toutes les maisons sont identiques sortent de chez eux pour constater l'étendue du sinistre et voir les soldats du feu tenter d'éteindre l'incendie. Les vitres du pavillon viennent de voler en éclats. Certains ont entendu une explosion. On s'inquiète pour les propriétaires, les Bébiens, qui restent injoignables. C'est l'angoisse. Ici, tout le monde se connaît et s'apprécie. Plus d'une heure après leur arrivée sur les lieux, les pompiers pénètrent enfin dans la bâtisse en cendres. Dehors, il y a foule. Des voisins, mais aussi des gendarmes de la section de recherche de Lyon, appelés en renfort, et même un journaliste du Progrès. François Pelloil a eu du flair, comme on dit dans le métier. Quelques heures plus tôt, il a appelé la caserne pour faire un point et on l'a averti qu'un gros incendie s'était déclaré au Trimolin. Il est sur place avec un photographe. Au milieu de tout ce monde, il y a aussi Samantha Bébien, la fille aînée des propriétaires de la maison qui a été prévenue par des voisins. Elle habite Givors, elle a pris ses enfants avec elle. Elle attend dans l'angoisse. Les minutes passent. À l'intérieur de la maison, les pompiers découvrent quatre corps. Deux au rez-de-chaussée, deux à l'étage. Calcinés, les cadavres ne sont pas identifiables, mais on sait que quatre personnes occupaient la maison. Vincent et Odette Bébien, les parents, et leurs deux enfants, Vincent Salvatore, 21 ans, et Aline, 16 ans et demi. Les allées et venues des pompiers et gendarmes se font dans un silence pesant qui tranche avec l'effervescence qui règne dans l'allée qui traverse le quartier. Eux savent ce qu'ils ont découvert à l'intérieur. Et quand ils croisent les regards inquiets des voisins et amis des bébiens, ils doivent peut-être baisser les yeux de peur qu'on décèle le drame. Un gendarme s'approche de Samantha, assise sur un talus sur le terrain qui fait face à la maison de ses parents. Son mari, Eric, n'est pas loin. Il pleure. Le gendarme s'agenouille au pied de Samantha pour lui annoncer ce qu'elle redoute. 4 corps ont été découverts. Il s'agit de ses parents, de son frère et de sa sœur. Tous morts dans l'incendie. Enfin, pas tout à fait. Elle l'apprendra le lendemain, les corps de ses proches sont criblés de balles. Les autopsies des médecins légistes dépêchés sur place à 22h45 sont formelles. Les bébiens étaient déjà morts quand l'incendie s'est déclaré. Aline, 16 ans et demi, gisait dans le corridor, derrière la porte d'entrée du pavillon. C'est son corps qui a empêché les secours de rentrer dans la maison. Sous son corps, les pompiers ont retrouvé un étui de carabine 22 long rifle. Elle présente un orifice sous la tempe gauche. Vincent, le fils, a été retrouvé étendu dans sa chambre, touché par 2 projectiles sur le côté droit du corps. Le père, Vincent, oui, le père et le fils portent le même prénom, est dans une autre pièce. Il présente 3 impacts de balles sur la poitrine. Sa veste remontée jusqu'aux aisselles indique au légiste qu'il est mort ailleurs et qu'il a été traîné dans la chambre où on l'a retrouvé. Sa femme, Odette, est étendue dans son lit. Elle présente un orifice au niveau du front. Elle a probablement été tuée dans son sommeil. Dans le couloir, les gendarmes découvrent les restes de 3 jerrycans d'essence de plastique rouge. Une découverte qui explique la forte odeur d'essence qui imprègne la maison. Et si le père de famille avait tué tout le monde avant de faire brûler le pavillon et se suicider? Nous sommes quelques mois après la tuerie de l'Ordre du Temple solaire. Souvenez-vous, en octobre 1994, en Suisse, en France et au Québec, 48 corps calcinés sont découverts. Tous appartiennent à la secte du Temple solaire, une affaire que je vous avais racontée dans une saison précédente de homicide. Alors, à Saint-Andéol, est-ce un meurtre collectif suivi d'un suicide? Eh bien, c'est peu probable, selon Xavier Richaud, premier procureur adjoint du parquet de Lyon, qui explique dans la presse le 31 mai.
En l'état des expertises en cours et des résultats de l'examen des débris de l'incendie, l'hypothèse d'un suicide collectif ou d'un meurtre commis par l'un des 4 membres de la famille qui se serait ensuite suicidé ne peut être la bonne.
Dans la maison, aucune arme n'est retrouvée. Si un membre de la famille avait tué tout le monde avant de retourner un fusil ou autre contre lui, on l'aurait retrouvé sur place, c'est logique. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Pour les voisins non plus, la thèse du suicide du père qui tue toute sa famille ne tient pas. Vincent Bébien, 50 ans, venait de retrouver un emploi après une longue période de chômage. Embauché en CDI dans une entreprise de Givors, le père de famille avait même fêté l'événement en offrant une coupe de champagne aux voisins. Dans Libération, en date du 6 juin, Bernard Fromentin a interrogé son responsable de service qui le décrit comme « sérieux, ponctuel », qui donnait entièrement satisfaction depuis son embauche. Un mois avant le drame, il a organisé une soirée dansante pour le comité de soutien au centre hospitalier où travaille son épouse depuis 17 ans. Le couple Bébien paraissait heureux et complice. Odette Bébien, infirmière de nuit dans le service de chirurgie et aux urgences de l'hôpital de Givors, est elle aussi appréciée de tous. Toujours dans Libération du 6 juin, Odette Bébien était une excellente infirmière, impliquée dans la vie de l'établissement, compétente, conviviale et appréciée des malades. L'employé modèle devait prendre sa retraite 8 jours après le meurtre. Alors, qui pouvait en vouloir à cette famille et surtout, pour quelle raison? Les gendarmes cherchent et se perdent parfois en vérifiant toutes les théories, même les plus fantaisistes comme celle-ci.
Ainsi, revenue récemment de Tunisie, la famille Bébian aurait pu transporter à son insu de la drogue que quelqu'un serait venu chercher. C'est en tout cas ce que n'hésitent pas à confier certains membres de la famille. À moins que tous aient été témoins d'une scène qu'il ne fallait pas voir.
Dans les jours qui suivent le drame, tout le monde ne parle que de ça. Dans le village, c'est la consternation. Et la peur aussi, comme le rappelle ce reportage du 2 juin du JT de 13h de France 2.
Pour les habitants de Saint-Andéol, plus le temps passe et plus les rumeurs circulent. Le village a retrouvé sa vie paisible, mais le terrible mystère qui plane autour de ce quadruple assassinat est omniprésent dans les esprits. Que toute une famille soit ainsi froidement abattue a de quoi glacer les veines.
On veut savoir la vérité, quoi, parce que bon, on a quand même peur au fond de nous, hein. On ne sait pas si c'est un rôdeur ou quoi. Enfin, on pense pas, parce que pour toute une famille entière, ça doit être un règlement de compte, mais bon, on a peur quand même, quoi.
Un règlement de compte ? Ok, mais qui ? Et pourquoi ? Dans l'attente de réponse, les voisins scrutent les allées et venues des gendarmes dans les ruines du pavillon. Ces derniers passent les lieux au peigne fin et interrogent tous les membres de la famille. Et ça en fait du monde. Les époux Bébian comptabilisent à eux deux 22 frères et sœurs. Qui en voulait aux Bébian au point de tous les tuer ? En reconstituant les emplois du temps des quatre victimes, les enquêteurs peuvent à la minute près et de façon certaine établir le mode opératoire de celui ou ceux qui ont fait ça. Odette a été tuée la première. Elle a pris son service la veille, comme chaque jour à 19h, avant de rentrer chez elle le lendemain à 7h. Et puis, comme à son habitude, elle est passée à la boulangerie pour acheter des croissants. Une fois chez elle, elle est montée se coucher. Les légistes ont retrouvé un seul impact de balle au milieu du front. Mais on lui a tiré 3 balles. Un orifice, 3 balles, avec le même angle de tir. Ensuite, c'est Vincent Salvatore, 21 ans, le fils qui a été assassiné. Magasinier pour un grand distributeur à Givors, il a pris son service à 4h15 du matin. Interrogé par les gendarmes, un de ses collègues se souvient qu'à la pause, il l'a entendu dire que le soir même, il irait à Gerland pour soutenir l'Olympique Lyonnais. Vincent Salvatore était fan de foot. Il ne ratait pas un seul match au stade Gerland. Il est rentré chez lui vers midi. Il a été abattu à son retour. 2 heures plus tard, vers 14h, un voisin a vu le père Bébian revenir de l'usine pour déjeuner. Il a garé sa voiture et il est rentré chez lui. À l'étage, il a reçu 8 projectiles, dont 3 en pleine poitrine. La dernière qui a été tuée, c'est Aline, 16 ans et demi. Elle est rentrée du collège vers 17h10. Elle était en 3e professionnelle, maille et habillement, au lycée Daniel Casanova de Givors. Elle a été tuée juste après être rentrée dans le pavillon familial. Elle a refermé la porte et n'a pas eu le temps de se retourner. Aline a reçu une seule balle dans la nuque avant de s'écrouler. Le ou les auteurs du quadruple meurtre connaissaient bien les habitudes et les horaires de la famille. Et mieux que ça, les gendarmes en sont persuadés, il s'agit d'un proche. En effet, le chien des Bébian, un berger allemand réputé pour être bruyant dans le voisinage, qui répond au nom de Duc, n'a pas aboyé de la journée. Les gendarmes continuent de sonder l'entourage. Un voisin procédurier, un amoureux transi d'Aline schizophrène, les auditions ne donnent rien. Une famille sans histoire. Un classique, sans histoire. Mais quand on gratte un peu, il y en a bien une ou deux d'histoires dans la famille des Bébian. C'est ce que je vous raconterai dans le 2e épisode de cette série consacrée à la tuerie de Saint-Andéol. En attendant, vous pouvez nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.